Radio Galaxy 90DG.5.
Merci d'être avec nous, bienvenue sur Radio Galaxy, la radio du sud de Toulousain, la radio qui existe entre Toulouse et les Pyrénées. Et je suis actuellement, j'ai la chance de recevoir dans nos studios de Rieux-Volvestre le député de la 7e circonscription, s'il s'agit de Christophe Bex. Christophe Bex, bonjour.
Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes et merci pour l'invitation, merci à Radio Galaxy.
Merci à vous d'être venu chez nous. C'est la première fois que vous avez une mandature en députation. C'est quoi être député pour vous maintenant ?
Alors tout d'abord, c'est déjà une victoire, c'est déjà une énorme chose parce que ça ne nous arrive pas souvent de gagner. Moi je me souviens la dernière fois que j'avais gagné quand j'ai voté à une élection, c'était 1981, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 42 ans. C'est la première fois que je votais à une élection présidentielle et je gagnais. Et donc là on a gagné en 2022 et j'étais le candidat, donc je suis devenu député. Donc déjà, quand j'en discute autour de moi, ils me disent « mais si on a gagné l'élection législative dans la circonscription, certes, mais on n'a pas gagné au niveau national ». Et donc, qu'est-ce que ça fait quand on est élu député ? Eh bien déjà, ce que je voudrais dire aux personnes, que tout le monde est légitime à être député. La preuve, si on regarde un peu mon parcours, je ne me destinais pas à être député, je ne suis pas né député. C'est vrai que j'étais candidat en 2017, mais dans une autre configuration. Et en 2022, il y a eu l'accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui a permis d'avoir un seul candidat de gauche sur la Circo 7, et dans beaucoup de circos, dans toutes les circos de France, et qui a permis mon élection au deuxième tour face à la candidate sortante Elisabeth Toutu-Picard. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait déjà une énorme joie. Et après, bon, on se retrouve rapidement à Paris et on se retrouve à l'Assemblée nationale avec tout ce que ça représente. Que l'on peut voir, quand j'étais gamin, je me souviens de regarder les questions au gouvernement qui avaient lieu avant le mercredi et je ne m'imaginais pas, quelques dizaines d'années plus tard, me retrouver dans l'hémicycle. Donc forcément, c'est un choc de culture, c'est un choc de lieu. On n'est pas habitué d'être dans un lieu comme ça, mais c'est une immense fierté, une immense responsabilité, tout en une immense joie, en sachant qu'on est la 16e législature, qui est un peu particulière, parce que pour la première fois sous la 5e République, il y a 10 groupes parlementaires, c'est du jamais vu le nombre de groupes parlementaires, et pour une des rares fois, sauf en 1988, comme je disais précédemment, sous le gouvernement Rocard, et lors de la deuxième élection de François Mitterrand, le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait une instabilité, et ce qui fait aussi toutes les procédures qu'on connaît actuellement avec les 49-3. Donc tout ça, il faut s'y adapter. Je veux dire, ça fait un an et demi, on prend ses marques, on recrute des assistants parlementaires pour nous assister dans les tâches qui peuvent paraître compliquées. C'est de la légistique, ce qu'on appelle du droit, savoir rédiger un amendement, tout ça. Donc il faut bien s'entourer pour pouvoir mener à bien notre mission de député. Mais comme je le rappelle, on dit toujours que les ouvriers, les employés sont très peu représentés. Certes, c'est vrai, mais il faut savoir que tout le monde a la possibilité d'être candidat et être élu, car derrière, l'État met à disposition justement des crédits pour pouvoir être bien entouré, être bien appuyé pour mener à bien cette mission de député, d'élu national.
Député, normalement, logiquement, c'est un représentant du territoire au niveau national, un représentant du territoire à Paris. Vous passez combien de temps sur votre territoire, combien de temps à Paris ?
Alors c'est vrai que c'est un élu national qui est élu dans une circonscription locale. C'est un élu national, c'est pas un élu local. Il faut bien faire la différence. On est député. Alors le terme n'est peut-être pas bien approprié parce qu'on est plutôt représentant national. Député, ça voudrait dire qu'on remonte des doléances, mais on est quand même attaché à la circonscription électorale dans laquelle on est issu. Et c'est une utilité énorme parce que ça permet d'être en contact avec la réalité des gens, et ça permet de faire remonter des problématiques locales au niveau national, où là on peut justement, en faisant la loi ou en faisant des amendements, prendre en considération tout ce qui nous remonte du local. Paris aspire énormément. Paris, au niveau, moi j'y remonte souvent le lundi et j'y reste souvent jusqu'au jeudi, voire le vendredi. Donc on est quand même pris dans le calendrier législatif et il y a une accélération au niveau des propositions de loi, des projets de loi. C'est une essoreuse, c'est un tourbillon comme jamais. Je veux dire, on bascule de propositions de loi, de commissions d'enquête, travail en commission, qui nous attire énormément à Paris. Et j'aimerais prendre plus de temps pour travailler localement, rencontrer les gens. C'est pour ça que mon équipe d'attachés parlementaires, il y a Fanny qui travaille avec moi à Muret à la permanence aux 3 avenues des Pyrénées. Et là, on recrute une deuxième personne, Julien, qui va nous rejoindre en début d'année pour plus s'ancrer dans le territoire pour être en lien avec les personnes.
On va revenir sur le territoire juste après. Au niveau national, justement, vous avez, comme vous le disiez, une essoreuse avec le nombre de lois qui sont proposées, des amendements à écrire, etc., etc. Est-ce que vous avez le temps de tout lire? Est-ce que vous avez le temps de tout apprendre? Ou c'est le rôle de vos attachés parlementaires?
Alors, le cabinet qui est composé des attachés parlementaires, donc il y a Issan qui travaille avec moi à Paris, qui est là justement pour faire des synthèses de synthèses, hein, parce qu'on a des attachés au niveau du groupe qui vont nous faire des descriptions des projets de loi, des propositions de loi. Donc, quand on appelle ça des descriptions, ça va être des feuillets qui font 90, peut-être plus de 100 pages, hein, je veux dire, avec toute la liasse des amendements. Et Issan va être chargé de traduire tout ça dans une synthèse qui va faire 20 ou 30 pages, qui nous permet de nous approprier justement des propositions de loi et des projets de loi et d'être dedans et de la rédaction des amendements. Donc c'est un gros travail de lecture, de relecture et de propositions qui doit être fait. Et il faut savoir que des propositions de loi, il y en a énormément qui arrivent du Sénat ou qui arrivent d'autres groupes parlementaires, tout en sachant que c'est quand même le gouvernement qui a l'initiative des propositions, c'est-à-dire le groupe, on va dire, majoritaire, et des projets de loi qui sont l'émanation du gouvernement, qui, on va dire, 95% des lois qui sont votées sont l'émanation du gouvernement. Nous, en tant que groupe d'opposition, le groupe de la France Insoumise, on a une niche, ce qu'on appelle la niche parlementaire. Une fois par an, on a l'ordre du jour de la journée, enfin, je veux dire, pendant une journée, et on fait des propositions de loi, comme on a eu la semaine dernière. Et donc là, c'est nous qui avons la main. Mais sinon, on subit l'ordre du jour, on subit le rythme du gouvernement au niveau du Parlement.
Comment vous voyez votre travail de député aujourd'hui, alors que entre la projection que vous aviez lors de votre élection et celle d'aujourd'hui, est-ce que vous semblez avoir plus de moyens, moins de moyens? Comment vous voyez la chose?
Alors, c'est une mission très exaltante parce qu'en tant que député, on a des pouvoirs quand même qui sont conséquents. Je veux dire, si demain je vais devant la prison de Seyss, on va m'ouvrir les portes. C'est-à-dire, on peut mener des auditions, on peut mener des commissions d'enquête. On peut auditionner des anciens présidents de la République, on peut auditionner des anciens présidents de fédérations sportives. On a un pouvoir qui est conséquent en tant que parlementaire. Nous sommes là pour contrôler l'action du gouvernement. On est là, bien entendu, pour faire des propositions de loi, organiser la loi, écrire des lois, mais aussi pour contrôler l'activité du gouvernement. Malgré tout, on est quand même sous la Ve République, avec un pouvoir exécutif très fort et qui, comme je le disais tout à l'heure, a la main sur l'ordre du jour et qui a la possibilité pour tout ce qui est loi très très importante. Ça s'appelle les lois budgétaires qui ordonnent la vie dans notre République, les lois de finances et les lois de la sécurité sociale, le PLFSS, projet de loi de finances sécurité sociale, qui a la possibilité, si jamais ils n'ont pas la majorité pour le faire, utilise l'article 49.3 qui est dans la Constitution, qui est tout à fait légitime, mais du coup, qui met à mal tout ce qui est discussion et débat au sein de l'hémicycle. Donc là, on pourrait se dire, quand on est député dans un groupe d'opposition, c'est un petit peu frustrant parce qu'on n'a pas la possibilité justement d'échanger, de débattre au sein de l'hémicycle, mais il faut savoir aussi tout le travail qui est fait en amont, qui est fait bien entendu dans les commissions. Chaque député siège dans une commission et là tout le travail se prépare avec des amendements et des débats qui sont préalables au débat dans l'hémicycle.
Un an et demi de mandature, on le disait tout à l'heure. Maintenant, en revenant sur du local, quelle est la perception des gens que vous avez connus localement, des gens que vous côtoyez auparavant, de votre travail de député? Vous avez un retour par rapport à ça?
Alors ben déjà, quand je rencontre les gens, ils sont très contents qu'une personne comme moi, qui me connaissent depuis longtemps, certains me voyaient déjà sur les marchés, me voyaient militer, je prenais le train avec les gens, donc ils voient que c'est quelqu'un qui les côtoyait et qui se retrouve député. Donc à travers mon élection, eh ben, ils sont, même s'ils ne partagent pas les mêmes opinions politiques que les miennes, et heureusement parce qu'on est fait de pluralité, c'est une démocratie et tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions et c'est très bien. Mais malgré tout, il y a une reconnaissance en disant « Ah, ben bravo, merci aussi de faire ce que tu fais ». Donc il y a une belle reconnaissance. Et je sais que quand je vais à Muret, quand je vais à Venergue dans la ville où je vis, il y a cette chaleur humaine auprès des gens. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon mandat, c'est de pouvoir justement rencontrer les gens, discuter de leurs problématiques, de leur joie, de leurs espérances. Et essayer de transcrire ça, soit dans un amendement, soit dans une proposition de loi, sans une question écrite au gouvernement, voire une question orale, qu'on a la possibilité de questionner le gouvernement. Donc ça, c'est un travail très intéressant. Moi, j'aime bien... Enfin, je suis un gamin issu de la ruralité. Je suis issu d'un village qui avait 400 habitants. Et je vois ce qui se passe dans les ruralités. L'abandon des services publics, c'est un fait. Mais non seulement les services publics, mais même les commerces. 70% des communes rurales n'ont plus un seul commerce de proximité. Donc quand je suis invité pour inaugurer une épicerie dans un village, je me dis, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à transcrire. Donc, aider les municipalités qui aident le commerce local et aussi aider l'implantation de commerces locaux, de liens, de tout ce qui permet aux gens de se rencontrer.
Votre action locale, justement, vous la relayez comment sur place ?
Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens puissent s'intéresser à la politique. Mais comment on fait pour intéresser les gens à la politique quand on voit ce triste spectacle, des fois, qui est relayé par les chaînes d'infos continues ou par les réseaux ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a initié une fête populaire à Miremont, que ce soit ce qu'on appelle le socialisme joyeux, on peut l'interpréter comment ? Comment on refait société ? Comment on intéresse les gens ? Eh bien, avec une fête populaire, on peut intéresser les gens avec des jeux pour enfants, avec des marchés paysans, avec des producteurs locaux, avec des marchés associatifs, avec la librairie locale, pour intéresser les gens à les faire revenir, à se retrouver et à échanger. Et je pense que la presse locale, comme la radio, comme le travail que vous faites, c'est hyper important, avec cet ancrage local, c'est-à-dire raconter l'histoire des gens, les gens qui font cette histoire au niveau local, c'est-à-dire le papier peint de la vie des gens au quotidien. C'est-à-dire que ce soit les correspondants locaux du journal La Dépêche qui racontent ce qui va se passer dans le club de sport, l'anniversaire de mariage, tous ces épisodes de la vie qui sont importants. Et les gens sont contents de se voir dans la presse parce qu'ils rentrent dans la petite histoire. Et cette petite histoire, ça fait la grande histoire. Même chose pour la radio, ça raconte la vie des gens. Et ça, c'est important de raconter ce qui se passe parce que c'est ce qui fait le lien entre nous tous et ce qui fait société. Et on en a grandement besoin de faire société, arrêter d'être divisé, fragmenté par des polémiques qu'on va nous faire descendre du haut pour nous diviser. Et c'est vers ça qu'il faut justement... Moi, je me bats de toutes mes forces pour que les gens... On peut avoir des divergences. Et heureusement qu'on a des divergences. Je ne voudrais pas d'une société où tout le monde pense pareil. On a une histoire différente. Chacun, on a notre passé. On a nos influences et tout. Et il y a des confrontations. On est dans une démocratie. Un coup, ça va être la gauche, un coup, ça va être la droite, et ça fait du bien, et tout ça, ça permet de faire avancer des choses. Je prends toujours l'exemple, la droite était au pouvoir à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, ça n'a pas empêché la droite, à ce moment-là, de faire passer l'impôt sur le revenu, qui a été créé juste après la Première Guerre mondiale. Donc tout ça, on a besoin de cette alternance, de ce débat d'idées. Surtout pas de la division stérile, et donc, justement, le local, la vie des gens, créer du lien, c'est une de mes préoccupations.
Comme on le disait tout à l'heure, le député, c'est ce qui fait le lien entre la province, on va dire comme ça, et Paris. Quelles sont aujourd'hui les choses qui seraient à mener pour que la ruralité, pour que les zones hors métropole puissent mieux vivre ?
Alors ce qu'il faudrait, ce serait ce qu'on appelait avant, dans les années 60-70, il y avait ce qu'on appelait l'aménagement du territoire. C'est-à-dire permettre aux gens qui habitent hors métropole de pouvoir circuler tout simplement. D'avoir un aménagement du territoire au niveau des voies ferrées. Il suffit de regarder ce qu'il y avait comme voies ferrées il y a 30, 40 ans. Le maillage qu'on avait, tous les villages ou toutes les communes étaient reliées par une voie ferrée et le maillage actuel. Donc ça, déjà, permet aux gens de circuler à des prix intéressants. Enfin, le transport, c'est la base de tout. En sachant que malheureusement, beaucoup de gens travaillent assez loin de son lieu d'habitation parce qu'il y a aussi l'augmentation des loyers qui chassent les gens des villes ou de la périphérie et qui habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Donc, à mon avis, il faut relocaliser l'activité au plus près où habitent les gens et relocaliser aussi la culture, enfin, ce qu'on appelle le cinéma, le théâtre, tout ce qui est activité, pour que les gens puissent vivre dans un périmètre plus petit. Parce que quand on voit le coût du transport, et c'est ça qu'il faut vraiment travailler, c'est l'aménagement du territoire. Et malheureusement, tout est aspiré vers ce qu'on appelle les métropoles. Toutes les politiques, même quand on construit une ligne de chemin de fer, on a privilégié le TGV, mais les TGV, ça concerne les métropoles. Mais tout ce qui est hors TGV, c'est-à-dire ce grand tunnel qu'on appelle, c'est-à-dire Paris-Lyon, Paris-Strasbourg, Paris-Bordeaux, toute cette diagonale du vide, elle est complètement abandonnée. Et on dit toujours, les gens, ils ont un sentiment d'abandon. Ils n'ont pas un sentiment d'abandon, ils sont abandonnés. Et je voudrais dire aussi que la ruralité ou les ruralités, il se passe des choses formidables. Il ne faut pas avoir une image négative des ruralités parce qu'il y a un dynamisme, il y a des initiatives, il y a des tiers-lieux, il y a du maraîchage, il y a de la culture. Il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui viennent s'installer justement pour avoir une meilleure qualité de vie parce que les gens ont pris conscience que c'est là qu'allait se jouer la transition énergétique, la transition écologique suite au changement climatique. Donc pour moi, l'avenir s'inscrit dans ces territoires et qu'il faut réorienter toute notre politique, l'aménagement du territoire, les investissements dans ces lieux-là pour justement désengorger les villes et prendre le temps de vivre.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que la richesse, c'est pratiquement le silence et l'espace. Et c'est des choses qu'on n'a plus envie du tout, ça, le silence ni l'espace. Et l'autre point, c'est de relocaliser, comme vous le disiez, le travail dans la ruralité, le travail ailleurs que dans les métropoles, pour que d'une part l'économie se redresse dans toutes ces zones inactives pratiquement, et deuxièmement c'est que les gens aient moins à circuler pour faire des économies d'énergie et surtout éviter la pollution.
Oui, puis je veux dire, quand je vois des gens, alors on parlait de la région parisienne, mais quand je vois des gens qui habitent aussi bien Carbonne, Muret, ou même comme moi j'habite toujours à Vénère, où on met une heure, voire une heure et demie pour faire 25 km pour aller à Toulouse, vous faites ça le matin, vous faites ça le soir, ça vous fait pratiquement 3 heures en voiture, plus votre temps de travail. Franchement, vous rentrez le soir, vous n'avez pas trop envie de ressortir, de vous investir dans le monde associatif, donc vous n'avez plus le temps de vivre. Et moi, ce que j'aimerais, moi, je prône la réduction du temps de travail. Quand on prône la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congé payé, la semaine, pour moi, la semaine des 32 heures, voire 28 heures, pour permettre aux gens, pas de rien faire, hein, mais de s'affranchir du travail, on va dire subordonné, mais s'occuper d'autres activités, c'est-à-dire ça serait du travail. Quand on s'investit dans une association, quand on s'investit au niveau politique dans son village, quand on est un élu local, quand on s'investit au niveau culturel, on va faire du théâtre associatif, tout ça c'est quand même du travail et qui bénéficie au bien-être et à la vie de tous les gens. C'est-à-dire on prend le temps de vivre et je pense qu'avec une activité de 28, même, allez, Keynes disait à la sortie de la guerre qu'en l'an 2000 les gens travailleront 15 à 17 heures et que la machine tournera, on arrivera à subvenir à toutes les activités humaines, parce qu'il y a besoin de travailler pour assurer, on va dire, les services publics, assurer la production, construire des biens de consommation. Mais avec 15 heures ou 20 heures par semaine, ça suffirait. Quand on voit qu'il y a 6 millions de personnes qui sont privées d'emploi, qu'il y a des tas de personnes qui bossent comme des 45, 50 heures, qui sont en burn-out complet, je pense que si on prenait le temps de vivre à réduire le temps de travail, les gens vivraient mieux, il y aurait moins de dépenses de santé, les gens prendraient moins d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Enfin, la société vivrait mieux, plus apaisée, plus calme, et on produirait du local. Et c'est ça, moi je veux une société apaisée où on prend le temps de vivre.
C'est vrai que ça, c'est une vision qui vous est propre et ce n'est pas la tendance d'aujourd'hui, malgré tout.
Et non, parce qu'on voit bien que la tendance, c'est toujours aller plus vite, toujours plus fort, produire, mais on va droit dans le mur, parce que produire, on voit bien qu'on est dans un monde défini, parce que les ressources, elles ne sont pas illimitées, et que la pollution est là, et puis on produit des objets qu'on n'a vraiment pas besoin. On nous vend des objets, on voit bien que la société de consommation, la publicité envahit. Et quand on discute avec les gens n'ont pas envie de ça. Je veux dire, les gens, ils demandent tout simplement à avoir un salaire correct. Un salaire correct, c'est 2 000, 2 500 euros. Ils ne cherchent pas à avoir 6 000, 10 000. Je veux dire, les gens, ce qu'ils veulent, c'est se loger, se nourrir, se distraire et vivre bien et avoir aussi un avenir pour leurs enfants. Moi, je me mets à la place de jeunes de 17, 18, 19, 20 ans. Moi, quand j'étais gamin, on imaginait l'an 2000 avec le progrès, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais là, je veux dire, c'est quoi l'avenir pour la jeune génération? C'est un monde fermé, c'est un monde pollué, c'est un monde de guerre, c'est un monde oppressant. Je pense que notre monde, il faut vraiment réorienter, redonner un espoir à toute cette jeunesse et pour que les gens vivent mieux. Alors tout ça, ça passe par la réduction du temps de travail, qu'on prenne le temps de réfléchir. Comme quand on prône la 6e République, qu'on prenne le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on veut comme institution, comme modèle démocratique, mais qu'est-ce qu'on veut comme société de lien entre nous, entre humains, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer à être comme un hamster, à tourner dans notre trou, produire plus, produire quoi? Mais c'est quoi le sens de la vie, quoi? Je veux dire, la vie, elle passe tellement vite, il est temps de se poser pour y réfléchir.
Vous le disiez tout à l'heure également, chaque député participe à plusieurs commissions, à plusieurs portefeuilles. Le vôtre s'intéresse essentiellement et particulièrement à la libéralisation du cannabis. Alors, pourquoi ça?
Alors, moi, je suis à la commission défense et des forces armées. Ça, chaque député est à l'obligation d'être inscrit dans une commission. Et après, je suis inscrit dans des groupes d'études. Il y a 80 groupes d'études à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu la présidence du groupe d'études sur la légalisation du cannabis. Alors, certains vont juger que ce groupe d'études est anecdotique. On va dire que préoccupation un peu babacool. Et en fait, quand on regarde le sujet, c'est un sujet transversal. C'est un sujet qui parle de santé publique. On est le pays le plus répressif d'Europe, pratiquement. Et on a un taux de consommation qui est énorme. Je veux dire, 45% de la population en France a déjà consommé.
En plus, on est un des pays les plus gros consommateurs d'anxiolytiques.
En plus. Donc, tout ça, ça veut dire quelque chose. Je pense que sur la légalisation du cannabis, il y a déjà une littérature énorme qui a été produite. Il y a déjà eu des propositions de loi, des missions parlementaires. Même un ministre de l'Intérieur, M. Vaillant, qui a été ministre de l'Intérieur sous Lionel Jospin, avait préconisé en tant que ministre de l'Intérieur la légalisation parce que notre système de prohibition ne fonctionne pas et qu'il est temps de réfléchir. Et puis ça ferait une économie budgétaire. Enfin, c'est un sujet qui est hyper transversal, santé publique, sécurité, sûreté, budgétaire. Donc ça recoupe tout. meilleure qualité de vie. Il faut rappeler quand même que le cannabis est une drogue et que si on veut vraiment réguler, il faut légaliser pour savoir ce qui se passe et pas laisser la main aux trafiquants et aux marchés obscurs, parce que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir lutter et réguler la consommation. Et partout où les pays ont légalisé le cannabis ou dépénalisé la drogue, on s'est aperçu de quoi ? Que la consommation avait baissé et que les jeunes aussi ne consommaient plus, comme actuellement en France, on a une situation dramatique. Donc c'est un sujet qui est hyper intéressant. Moi, j'ai envie qu'il y ait un débat national. Il y a le Conseil économique, social et environnemental qui a pris ce sujet-là à bras-le-corps, qui a fait un rapport qui va dans le sens de la légalisation. Et quand j'ai discuté avec les membres du CESE, ils m'ont dit au début, on n'avait pas d'avis. Mais plus on s'intéresse à ce sujet-là, eh ben forcément, l'évidence, c'est la légalisation. Et donc, le 12 janvier à Venerque, je vais organiser un premier débat avec un membre du CESE et d'autres invités pour justement lancer le débat. Les gens ne sont pas d'accord, sont d'accord, enfin bref, mais au moins qu'on mette ça sur la table, qu'il y a un débat public sur ce sujet-là. Mais comme beaucoup de sujets, je pense que les gens sont privés de débat.
Est-ce que vous faites une différence entre le cannabis récréatif et le cannabis thérapeutique ?
Alors le cannabis, j'ai discuté avec des personnes, des patients qui justement en prenaient, des gens qui m'auraient dit au départ, cannabis, waouh ! Et puis ça renvoie tout de suite à quelque chose qui fait peur, le cannabis, la drogue et tout. C'est une drogue certes, mais qui permet, dans des maladies qui sont clairement identifiées, bah, de calmer la douleur pour tout ce qui est sclérose en plaques, soins palliatifs et tout ça. Bien entendu, il y a une différence entre le récréatif et le palliatif. Mais c'est la même démarche. Il faut aborder ce sujet-là. Et moi, ce que je veux avant tout, c'est comme beaucoup de sujets, hein, c'est comme quand je parlais tout à l'heure du 6e République, que les gens puissent en débattre. Actuellement, on est privé de débat. On est plutôt avec un gouvernement qui va faire de la communication. Et on voit bien même que nous, à l'Assemblée nationale, avec le 49-3, nous sommes privés de débattre. On a du mal à manifester en France, ou sinon on va être traité de toutes sortes de noms. Il faut à tout prix que les gens viennent débattre. Et malheureusement, quand je disais que dans les territoires où les gens n'ont plus la possibilité de se rencontrer, on manque de commerce de proximité, on manque de tiers-lieux, on manque de café tout simplement, eh bien les gens, ils se réfugient où pour débattre ? Ils vont se réfugier sur des réseaux sociaux comme X. Et c'est là qu'on va avoir toute la mauvaise graine du débat, où ça va être de l'injure, ça va être de l'invective, et c'est pas là qu'on pourra débattre. Moi, je préfère débattre en direct, face à une personne qui ne partage pas mes opinions, mais au moins on peut débattre, on va pas être d'accord, que le débat se porte sur les réseaux sociaux, où là, il y a toutes les violences qui sont permises. Il faut vraiment rouvrir les portes du débat. Et pour ça, il faut créer des lieux, rouvrir des lieux où les gens puissent s'affronter dans le bon sens du terme, mais dans le débat démocratique et politique.
Deux dernières questions, si vous me le permettez. La première, c'est quelle a été votre plus grande satisfaction en étant député ?
C'est des petits combats. Moi, je me souviens, j'avais été sollicité par des parents d'élèves de Cugnot, la ville qui est au nord de la circonscription. Il manquait un instituteur. Donc, j'y suis allé avec les parents d'élèves, avec le maire de Cugnot. Et il y avait la presse qui était là, on a fait une action devant l'école, et ben le lundi suivant, il y avait un instituteur qui était là. Ce sont des petites victoires, mais qui vont changer le quotidien des gens, qui vont changer le destin des enfants, je veux dire. Là, on a quand même la responsabilité d'enfants qui n'ont pas d'enseignants en face d'eux. Donc ça, c'est des petites victoires, mais grâce au fait que je sois député, et ben c'est ça qui me donne une belle satisfaction en disant, c'est pas vain. En tant que député, tu peux faire des choses, tu peux apporter quelque chose dans le quotidien des gens, c'est du concret, c'est du réel. C'est pas des grandes paroles sur des estrades, c'est du terrain. Et ça, ou inaugurer une épicerie. Enfin, tout faire pour justement, il y a quelque chose qui change dans le quotidien des gens.
Et deuxième et dernière question, c'est quelle est votre plus grande ambition aujourd'hui ?
Ma plus grande ambition, c'est après moi, à la fin de mon mandat, que justement quelqu'un puisse prendre cette circoscription. Moi, je suis un militant de gauche, la France Insoumise, que derrière moi, il y a aussi un député de gauche. Et éviter à tout prix que ce soit le Rassemblement National ou autre... force d'extrême droite qui, justement, malheureusement, prendrait cette circonscription parce qu'il faut vraiment lutter contre ces idées d'exclusion qui, pour moi, ne sont pas républicaines. L'extrême droite prône la préférence nationale, donc n'est pas du tout dans l'égalité, qui est quand même notre devise républicaine, et non pas dans la fraternité, parce que c'est tout l'antithèse de ce que je prône, c'est diviser les gens. Et chaque fois que l'extrême droite a eu le pouvoir quelque part dans un pays, il ne l'a jamais rendu. Et les gens en ont payé les conséquences. Moi, j'ai la lourde responsabilité, en tant que député de la 16e législature, à ne pas laisser notre pays aux mains d'extrême droite. Dans l'histoire de notre pays, il y a eu une 16e législature. La première fois, c'était en 1936, et ça a débouché sur le Front populaire. Et ben moi, ce que j'espère, c'est que notre 16e législature débouche sur un Front populaire qui apporte justement ce qu'ils avaient espéré. C'est arrivé plus tard, les jours heureux, avec le programme du Conseil national de résistance, avec la création de la sécurité sociale. Moi, j'espère ça pour mes concitoyens, mes concitoyennes, pour notre pays, qui a une tradition quand même des pays des droits de l'homme et des citoyens. C'est pas un vain mot. Liberté, égalité, fraternité, c'est une espérance, hein, c'est en fronton de nos mairies. Eh ben, je me battrai pour justement éviter que derrière moi, il y a un candidat ou une candidate du Rassemblement national qui prenne la Circo 7.
Le rendez-vous est donc donné pour ce 12 janvier à Venerque et cette conférence débat sur la légalisation du cannabis.
Christophe Bex, député de la 7e circonscription, merci beaucoup d'être venu sur les antennes de Radio Galaxie et puis écoutez, à une prochaine fois peut-être.
Eh bien, merci pour votre invitation et à une prochaine fois, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes sur Radio Galaxie et vous êtes bien.